Il y a quelques semaines, nous avions médité ensemble une réflexion sur la vie du roi Saül, considérant 8 étapes de cette vie assez dramatiquement vécue. Nous avions considéré les points suivants. Premièrement, la timidité, la modestie initiale de Saül. Deuxièmement, une consécration exemplaire des premières années. Troisièmement, l'apparition d'un orgueil et d'une vanité qui ne cesserait de se développer. Quatrièmement, un esprit torturé. Cinquièmement, une haine en conflit avec des regrets, des remords, mais toujours finalement gagnante. Sixièmement, une relation distante, pas véritablement personnelle avec Dieu. Septièmement, le terrible échec et la mort. Et huitièmement, nous posions la question d'une grâce, peut-être, pour Saül. Nous avions ensuite, dans une deuxième partie de notre réflexion, regardé aux ressemblances observables entre la vie, le parcours, les sentiments, la religion de Saül et le parcours de vie de chaque homme. Nous avions pu retrouver nombre de points communs entre Saül et nous, ce que j'avais cherché à illustrer en intitulant cette deuxième partie de manière un peu provocante, « Saül, mon frère ». Nous avions en effet pu identifier que plusieurs des points marquants de la vie de Saül, nous pouvions en trouver comme des échos dans la vie de tout homme, dans notre vie même. Ainsi, premièrement, une certaine timidité et modestie. Deuxièmement, un service exercé avec fidélité parfois. Troisièmement, de l'orgueil et de la vanité que trop souvent nous abritions. Quatrièmement, un esprit parfois torturé, fatigué, malade. Cinquièmement, des repentirs et des regrets de certains de nos actes, mais fragiles et souvent inconsistants. Sixièmement, une méconnaissance fréquente de Dieu, ignorée ou rejetée ou trahie. Septièmement, des échecs plus ou moins graves menant à la mort inéluctable pour chacun. Et huitièmement, enfin, une grâce possible, ô combien nécessaire. Il nous restait à envisager la suite de notre méditation, un regard sur le vrai roi, le seul roi véritable, Jésus-Christ. Et ce matin, nous terminerons notre réflexion en nous posant la question, comment nous situons-nous face à ce roi? Est-il notre roi, Jésus-Christ? Troisième partie donc dans cette réflexion, Christ, le vrai roi. Alors je ferai toute une série de lectures dans l'évangile de Matthieu, de Jean, aussi dans la lettre aux Hébreux et dans l'Apocalypse. Un bon nombre de lectures, assez brèves. Je donnerai les références, mais je n'attendrai pas forcément que vous les ayez trouvées pour ne pas perdre de temps. Matthieu chapitre 2, verset 2. Il dit, ce sont les rois mages, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Matthieu au chapitre 7, versets 28 et 29. Quand Jésus eut fini de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme leurs spécialistes de la loi. Matthieu chapitre 27, verset 29. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un roseau dans la main droite, puis s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Évangile de Jean, chapitre 12, verset 12. Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient, assis sur le petit d'une ânesse. » Au chapitre 13, versets 4 et 5, il se leva de table, quitta ses vêtements, prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Verset 12, après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements et se remit à table et leur dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous avez raison, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Chapitre 18, verset 33. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ? » Pilate répondit, « Suis-je un juif, moi ? Ta nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité, écoute ma voix. » Chapitre 19, verset 17. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Épître aux Hébreux, chapitre 1, verset 18. « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre de justice. Tu as aimé la justice, tu as détesté la méchanceté. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a désigné par onction comme roi, de préférence à tes compagnons, avec une huile de joie. Et c'est toi, Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, et le ciel est l'œuvre de tes mains. Eux, ils disparaîtront, tandis que toi, tu restes là. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Tu les enrouleras comme un manteau. Ils seront remplacés comme un vêtement. Mais toi, tu es toujours le même, et ton existence n'aura pas de fin. » Apocalypse, chapitre 17, verset 14. « Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Ceux qui ont été appelés, choisis et fidèles, et sont avec lui, les vaincront aussi. » Chapitre 19, verset 11. « Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. » Verset 16. « Il portait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, « Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Une sélection de quelques versets dans le texte biblique qui parle de la royauté de Christ. Christ, en effet, le seul vrai roi. Le seul vrai roi, c'est Christ. Non pas Saül, bien sûr, si imparfait, non pas même David ou Salomon ou Ézéchias, eux-mêmes imparfaits, pécheurs, faibles, faibles images du seul vrai roi. Oui, si nous voulons comparer Christ à Saül en particulier, que de différences. Que de différences éclatantes entre ce premier roi choisi par Dieu, image, mais image si faible et si imparfaite, et Christ, le parfait. Premièrement, l'humilité. Pas de timidité en Jésus, mais de l'humilité et de la modestie. Venu comme un simple homme dans le monde, lui le Fils de Dieu, le Créateur de toutes choses, né dans une étable, ouvrier, lui pauvre, méprivé, méprisé des riches et des puissants, sans rien pour attirer les regards, dit Ésaïe, celui dont on détourne même le regard. Celui qui entre dans Jérusalem, monté sur un ânon, le petit d'une ânesse, et non sur un fougueux destrier. Vous imaginez un chef d'État descendant les Champs-Élysées sur une lada, avec une... Hein, c'est peu vraisemblable. C'est ce que fait Christ sur le petit d'une ânon. Celui qui lave les pieds de ses disciples, celui qui se fait serviteur alors qu'il est le maître, celui qui accepte enfin de mourir sur la croix entre deux brigands. L'humilité, deuxièmement, le service. Ce roi venu pour servir va servir jusqu'à la mort. Il a en effet aimé à en mourir ceux qu'il venait sauver. Il a accepté ce service au prix de sa fatigue, de sa souffrance, des moqueries, des hostilités, de la séparation d'avec son père dans ce temps terrible sur la croix. Et si Saül a pu un temps refuser de punir ceux qu'il avait méprisés lors de son intronisation, Jésus a prié son père de pardonner même à ceux-là qui le crucifiaient. Troisièmement, humilité, mais autorité. À l'orgueil et la vanité de Saül, et parfois, il faut le dire, aux nôtres aussi, nous pouvons opposer la simplicité, la modestie, l'humilité de Jésus. Cependant, Ce qui frappe aussi chez Jésus, c'est l'autorité qu'il manifeste et qui frappait son auditoire comme aujourd'hui les lecteurs des évangiles sont frappés. Quel enseignement est le sien ? Sans compromission, sans langue de bois, sans aspect rabiscoté, mais des enseignements pleins de sagesse, de révélation, pleins d'autorité. Nul autre que Jésus ne peut parler avec une telle autorité. Ne cherchez pas ailleurs, ni chez les philosophes, les politiques, les psychanalystes, les maîtres à penser. L'autorité de ces maîtres est toujours mise en question par leur vie, qui ne sont jamais parfaitement en cohérence avec leurs enseignements. C'est tout différent chez Jésus. Son enseignement et sa vie sont totalement cohérents et démonstratifs du droit qu'il a à parler comme il le fait. Quatrièmement, la maladie prise sur lui. Ce sont nos souffrances qu'il a portées, nos maladies, nos infirmités. Jésus sait toutes choses. Il sait nos faiblesses, nos maladies, nos folies. Il a accepté de laisser derrière lui la gloire qu'il avait auprès du Père pour venir lui-même, faible, fatigué, proche de nous, capable de comprendre et de compatir à nos faiblesses et à nos maladies. Lorsque nous sommes attaqués par la maladie, la souffrance, la solitude, les angoisses, la dépression, les tentations, nous ne sommes pas seuls si nous l'avons accepté dans nos vies. Lui est à notre côté, il nous accompagne et ne nous abandonne jamais. Cinquièmement, la haine subie, acceptée. Christ a fait face à la haine, il l'a acceptée, supportée, sachant jusqu'où cela irait. Et cela, il l'a vécu non pas comme un super-héros, indifférent à tout, insensible, mais au contraire souffrant, physiquement et spirituellement, pour que nous soyons, nous, débarrassés de nos haines, de nos colères, de nos rancunes. Sixièmement, une communion parfaite avec le Père. Saül s'adressait, nous l'avions dit, au Dieu de Samuel. David à son Dieu. Jésus est en communion parfaite avec son Père. Moi et le Père, nous sommes un, a-t-il pu dire. Je savais, dit-il à son Père, que tu m'exauces toujours. Notre Dieu, mon Dieu, c'est le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu que je peux prier en son nom. C'est seulement parce que je peux le prier en Jésus, qu'il est mon Dieu, et que m'adresser à lui ainsi, le considérer ainsi, n'est pas faire preuve d'orgueil ou d'ignorance de sa sainteté et de mon péché. À cause de Christ, de son sacrifice, de sa mort et de sa résurrection, je peux dire que Dieu est mon Dieu, et le prier comme mon Père. Notre Père qui est aux cieux, nous enseigne Jésus lui-même, notre Père qui est aux cieux. Septièmement, la croix, un échec qui est une victoire. Vous vous souvenez des prédications récentes de notre frère Paul Appéré sur le thème de la croix. Saül termine sa vie sur un terrible échec, et tout homme connaît des échecs, parfois douloureux, peut-être terribles. L'on pourrait regarder à la mort de Jésus comme à un terrible échec. Beaucoup, sans doute, à l'époque, l'ont considéré ainsi. Sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix, et alors nous croirons en toi. Mais cet échec, cette mort ignominieuse, paradoxalement, était le triomphe de Christ, le triomphe de Dieu. Satan a été défait alors, la mort elle-même a été défaite, et la vie a triomphé, et toutes les promesses commençaient de s'accomplir. Ô mort, où est ta victoire ? Ô mort, où est ton aiguillon ? Christ est ressuscité, il est vainqueur et glorieux. Septièmement, la grâce, non pas nécessaire pour Christ, mais donnée par lui. Mais de cela nous parlerons en terminant tout à l'heure. Quatrième et dernière partie dans notre réflexion. Comment nous situons-nous face à ce roi, Jésus-Christ ? Il me semble que plusieurs attitudes différentes peuvent s'observer. J'en ai retenu cinq. Premièrement, l'hostilité, le rejet. Deuxièmement, la peur. Troisièmement, l'indifférence. Quatrièmement, une adhésion molle. Cinquièmement, l'adoration. Envisageons rapidement ces diverses attitudes. Premièrement, l'hostilité, le rejet. Ni Dieu ni maître, je suis mon maître à moi-même. mon propre Dieu. Je ne veux entendre parler de Dieu, de Christ. Je suis opposé, d'ailleurs, à toute religion, à toute foi en un Dieu créateur et Seigneur. Éventuellement, ça ne me gêne pas d'être superstitieux et de regarder les horoscopes, mais je ne veux pas de Dieu. Alors, selon les circonstances, mon hostilité se réduira à promouvoir une laïcité agressive. Par exemple, en cherchant à obtenir l'interdiction des crèches dans les lieux publics, ignorant le fait que tous les éléments officiels, administratifs, gouvernementaux, etc., font explicitement référence à la naissance de Christ. Nous sommes bientôt en 2017, après la naissance de Jésus-Christ. Mais je ne veux pas prêter attention à cela. Mon hostilité pourrait se manifester de manière bien plus violente, en brûlant des églises, en arrêtant des chrétiens, en persécutant et tuant les disciples de Christ, comme cela se produit dans tant de régions du monde. Je refuse, dira et vivra tel opposant à la royauté de Christ, de soumettre ma vie à qui que ce soit, et bien sûr à Christ, à Dieu. Que je me mette sous l'autorité d'autres puissances, vous le dites, oui, peut-être. Et pourtant, oui, en effet, ne suis-je pas soumis à mes désirs, à la sexualité, à l'argent, au pouvoir, à mon travail, à mes passions. Deuxième attitude possible, la peur. Il est assez rare aujourd'hui de rencontrer telle attitude, telle position, avoir peur de Jésus. Beaucoup plus souvent, on rencontrera soit l'hostilité ou l'indifférence ou une foi élémentaire. Mais certains gardent quand même cette crainte, cette peur. Je ne suis pas digne de Dieu. Je ne peux que susciter sa colère, son rejet à cause de mes péchés, de mes fautes répétées, de mon incapacité à vivre comme je sais que je devrais le faire. Ainsi, j'ai peur parce que je suis pécheur et j'aurai peur en pensant à la mort, à mon dernier jour. Qu'est-ce qui va m'attendre, moi qui ne peux satisfaire aux exigences de sainteté, de justice de Dieu ? Pendant mon enfance et mon adolescence, j'étais troublé par ces versets du psaume 101, tout le psaume, mais les derniers versets en particulier. Chaque matin, je réduirais au silence tous les méchants du pays. Et je me considérais dans cette catégorie. Et en plus, ma Bible s'ouvrait presque systématiquement sur ce psaume. Je me savais faire partie de ceux qui étaient condamnés en dehors de Christ. Troisième attitude, l'indifférence. Je ne suis pas hostile à Christ. Je n'ai pas peur non plus. Je suis indifférent, je pourrais dire si j'ose. Je suis un athée non pratiquant. Un peu comme en politique. Vivre en République, c'est assez bien. La royauté. Bon, si c'est comme en Grande-Bretagne ou en Thaïlande, ça ne me gêne pas spécialement. Un roi sans pouvoir, c'est bien. Et éventuellement, j'aime bien regarder les cérémonies de la royauté britannique. C'est plus amusant que le défilé militaire du 14 juillet. Et les présidents. Il y a quelques années, un président disait être le président des Français. Ben, ça ne me plaisait pas. Et en plus, c'était faux. Il était président de la République. Mais de toute façon, moi, je ne veux pas de président, je ne veux pas de roi, je ne veux pas de reine, je ne veux pas quelqu'un qui domine sur ma vie. Mais si on me laisse tranquille, ça me convient. Ça me convient. Remarquez, à l'occasion, je n'ai rien contre des cérémonies religieuses. Un mariage à l'église, c'est plus sympathique, plus traditionnel que simplement à la mairie. Et puis, j'aime bien la messe de Noël et les obsèques d'un pape, c'est intéressant, c'est spectaculaire. Mais rien de cela n'est vraiment pour ma vie. Et je ne me soucie pas de ce qui pourrait se passer, de ce qu'il pourrait attendre de moi. Si vous souhaitez, vous, autre chose, plus pour moi, soyez déjà content. Je suis là ce matin et je vous écoute. Quatrièmement, une adhésion molle. Oui, je crois en Christ. Je reconnais ses œuvres, j'admets que l'on puisse le dire roi. Mais vous savez, la vie est compliquée. Il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à vivre. Le travail, les enfants, ma femme, les impôts, la télé, Internet, le sport, etc. Les vacances. Il faut les préparer, ensuite il faut les vivre, ensuite il faut les payer. Donc, tellement de choses. Alors bon, quand même, je vais à l'église assez régulièrement. Bah, je suis même là ce matin. Je lis la Bible assez souvent, Assez souvent. Je ne sais plus quand la dernière fois, mais enfin, assez souvent quand même. Je prie plus ou moins tous les jours, surtout quand j'ai une anxiété, un souci. Quelques minutes, mais c'est quand même mieux que rien. Et c'est difficile de vivre plus. Oui, bien sûr qu'en profondeur, Christ est roi et mon roi. Mais c'est vrai qu'il est un peu comme la reine d'Angleterre. Il a peu d'influence réelle sur ma vie. Pas par hostilité, ni même par indifférence résolue. Plutôt parce que les soucis du monde me détournent beaucoup de lui. Mais quand les enfants seront plus grands, quand j'aurai fini mes examens, quand j'aurai fini les travaux de ma maison, quand la Coupe du monde de foot sera passée, quand j'aurai ce poste envié, quand je serai en retraite, en tous les cas juste avant la mort, je consacrerai plus de temps à Christ, mon roi. Pour l'instant, c'est un peu comme s'il était parti en voyage. Ou alors, c'est peut-être moi qui suis parti. Cinquième attitude d'adoration. C'est l'attitude, la position de beaucoup parmi nous. C'est l'attitude que Patricia a exprimée ce matin par son baptême. Christ est mon roi. Il est celui que je veux, à qui je veux me soumettre. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est ma vie. Il est mon espérance. Je sais un peu mes faiblesses, mes chutes, mes reniements parfois, la faiblesse de ma foi, mais je sais en qui je crois. Je sais qu'il est le Seigneur et le Roi, et je ne veux pas d'autre roi, pas d'autre roi que lui. Avec son esprit en moi, je veux l'adorer, le servir, lui plaire, l'honorer, le remercier, l'imiter, le suivre. Il m'a donné plein de bonnes choses dans ma vie. Il m'a beaucoup comblé. Une épouse aimante, des enfants fidèles, une église nourrissante, des frères et sœurs aimants, édifiants. Il m'a donné jusqu'ici la santé, fait vivre en paix, dans le confort, la sécurité. Il a nourri mon intelligence et mon corps, et de tout cela je lui suis redevable et reconnaissant. Mais plus que ces choses si riches, c'est son amour révélé, manifesté par son esprit, qui fait ma joie, qui est, si j'ose dire, ma patrie. Ma patrie, c'est lui. C'est lui que j'adore. Je ne veux pas d'autre roi que Christ. Jésus, serviteur, humble, Seigneur, sauveur glorieux, éternel, amour. Conclusion. Jésus-Christ, le vrai, le seul roi. Roi humble, roi serviteur, roi crucifié, roi saint. Roi ressuscité, roi glorifié, roi régnant, roi éternel. Il n'est pas d'autre roi. Et c'est le roi qu'il faut adorer, auquel il faut se soumettre. Celui dont le joug est léger, le fardeau aisé. Celui qui a les paroles de la vie éternelle, qui est le premier d'entre les morts, qui est à la droite du Père. Il est le roi pour toute éternité, devant lequel toutes les autres dominations, tous les pouvoirs, s'évanouissent et s'évanouiront. Il est le roi que j'adore. Est-il celui que vous adorez? Ne nous trompons pas. Être dans une attitude d'hostilité, de rejet, d'indifférence et même d'adhésion molle, cela revient plus ou moins au même. Cela ne suffira pas à gagner la clémence de celui que vous rejetez, en fait. De fait, vous devriez, si vous êtes dans ces positions-là, on arrivait plutôt à celle de la peur devant ce roi saint. Oui, si vous êtes dans cette position, mais si vous êtes dans cette position-là de peur, ou si vous y arrivez, venant de l'hostilité ou de l'indifférence, si vous êtes dans cette position, dans cette peur, justifiez. Vous pouvez en sortir et vous joindre au peuple nombreux des rachetés, des adorateurs de Christ le roi. C'est bien sûr par la grâce que vous pouvez y parvenir. La grâce de Dieu pour tous ceux qui confessent Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur et qui savent que ce n'est que par la foi qu'ils pourront être sauvés et venir adorer le Fils de l'homme, Jésus-Christ, roi. Oui, la grâce qui est ce dernier point de notre troisième partie que j'avais laissé de côté jusqu'à maintenant, c'est à partir de la croix de Christ, de cet échec apparent qui était en fait la plus grande victoire de l'histoire, que la grâce s'est déployée. À tous ceux qui croient, qui reconnaissent leurs péchés, leur besoin du pardon de Dieu, l'efficace parfaite de la grâce de Dieu en Christ, par son sacrifice, sa mort, sa résurrection. À tout cela, la vie est offerte, la vie éternelle, la communion avec le Père et le Fils par l'Esprit. Chaque homme, chaque femme, du plus fameux au plus humble, au plus misérable, a besoin de la grâce de Dieu. Saül en avait besoin, l'a-t-il saisi ? Je ne sais. David en avait besoin. Nous en avons tous besoin. J'en avais le plus grand besoin. Je l'ai reçu en ouvrant ma vie à Christ, en reconnaissant mon péché, en lui ouvrant mon cœur et ma vie. Beaucoup d'entre nous, ici, l'ont fait, comme Patricia, qui en a témoigné ce matin d'une belle manière. Est-ce votre cas aussi ? Si oui, avec moi, vous êtes heureux et béni. Si ce n'est encore le cas, ne restez pas en danger de périr, loin de cette grâce. Dans une situation finalement aussi dramatique que Saül sur le champ de bataille face à ses ennemis dans son dernier jour. Les ennemis de nos âmes sont certainement plus redoutables encore que ces Philistins. Nous vous en supplions, rejoignez sans tarder ce peuple nombreux des rachetés, des graciés, des bien-aimés de Dieu en Jésus-Christ.